Alors bonjour Christophe Suita, c'est comme ça qu'on prononce votre nom?
Siuta.
Siuta.
Exactement.
Alors, je demande souvent à mes invités, vous savez comment qu'on prononce les noms, parce que c'est tellement difficile. C'est une origine
Alors, au plus loin qu'on a réussi à trouver, le Siuta, ça viendrait soit de Santaté, l'homme assis, donc en patois, soit de Siutat en catalan.
En catalan, parce que vous êtes originaire de Toulouse, je crois, ou de la région toulousaine?
Oui, de la région toulousaine.
Voilà, bon, vous n'êtes pas loin, vous êtes de la même région que nous.
Ouais.
Ah, maintenant, on est l'Occitanie, Méditerranée, Pyrénées, donc vous faites partie de notre région. Alors, vous êtes photographe?
Oui, je suis photographe.
Alors, vous êtes photographe et vous faites depuis longtemps, hein, vous êtes depuis 2005 à peu près, on peut dire que vous êtes professionnel, 2010?
Oui, à peu près. J'ai commencé par une école audiovisuelle et on va dire que l'activité photographique à proprement parler de manière professionnelle depuis 2 ans.
2 ans et vous travaillez beaucoup pour des ONG, j'ai vu. Hein.
Alors oui, alors pas spécialement en tant que photographe, mais plutôt en tant qu'opérateur humanitaire.
D'accord.
Sur long, différents rôles et en fonction des
missions. Des besoins et des missions.
Exactement.
Voilà. Ah, mais là, c'est pas pour ça que vous êtes là, c'est pour votre rôle vraiment de photographe. Et vous avez parcouru un peu la Terre, le monde, hein. J'ai vu que vous avez été dans de nombreux endroits, mais là, pour ce type de photo, vous avez été surtout en Espagne et en Bolivie. Alors, racontez-nous, parce que ça s'appelle « Monstres et dévots ».
Oui. Alors, l'idée de base, c'est de partir rejoindre des amis qui vivaient donc à Lima, au Pérou, et on avait prévu de faire une aventure, un road trip au travers de la cordillère des Andes. Et il se trouve qu'il y a 2 grands points, on va dire, de carnaval qui se célèbrent au niveau de la Chandeleur, donc du coup dans les Andes, le carnaval de Puno et le carnaval d'Oruro. Donc le carnaval de Puno étant celui au Pérou, et le carnaval d'Oruro qui est illustré ici, est en Bolivie.
Et en Bolivie, c'est extraordinaire ce carnaval, parce que ce sont, comme votre titre, des monstres et des veaux, c'est exactement ça. On a l'impression de voir des monstres, et c'est à la fois une fête religieuse, mais qui a un caractère païen. C'est quand même assez curieux. Hein.
C'est exactement ça, la manière aussi dont s'est transformé les cultures autochtones au travers donc, du coup, bah, du joug, on va dire, de la chrétienté, lors de la colonisation,
oui.
Ont transformé, ont fait une espèce de fête syncrétique.
Bah, on peut dire que vous avez vu qu'en Amérique latine, de façon générale, mais même depuis le Mexique, hein, c'est les personnes, quand ils ont reçu, pas tellement très contents, les conquistadors, eh ben, ils se sont appropriés après la religion catholique, mais en la transformant, en la mettant à leur sauce, on pourrait dire.
Bah là, j'ai envie de dire, ils n'ont pas eu le choix. C'est-à-dire leur divinité, que ce soit la divinité de la montagne qui était protectrice, on va dire, de l'environnement et la Pachamama, donc du coup, ont dû être transformés en anges et diable, du coup, pour correspondre aux attentes
de la
chrétienté. Voilà.
Mais moi, je suis toujours fasciné par ce côté capacité à inclure une nouvelle religion qui n'avait pas le choix, comme vous dites, c'était ça ou la mort, hein,
oui.
Soyons clairs. Et de notre côté, ils le détournent de façon tellement que ça devient une autre religion, quelque part. On peut voir des petites églises, par exemple, durant le Chiapas au Mexique, où ils ont gardé les symboles chrétiens, mais ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on nous on parle du catholicisme, hein, ça n'a rien à voir.
Complètement.
Alors donc, revenons à votre travail. Donc c'est de la photographie, noir et blanc, ou vous changez un petit peu. Il y a quand même des procédés dans votre art photographique, puisque vous irez le voir, les auditeurs, j'espère, à l'ARPA, qu'on en reparlera en deuxième tout à l'heure. Mais c'est que ce sont des procédés, quoi. C'est technique.
Ouais, il y avait une prise de parti esthétique, on va dire artistique, lors de ces photos, on va dire, de ces shootings, c'était d'être très proche des gens. Donc j'étais avec une optique très courte, un 10-24, et l'idée c'était de laisser la place au flou. Laisser la place, alors c'est un peu un sujet tabou en photographie, le flou, et donc du coup d'être très présent à l'intérieur du carnaval et à l'intérieur pour être au plus proche des gens.
Un peu l'impression de mouvement, on pourrait dire. Hein. Moi, là, j'ai devant moi une de ses œuvres. On a l'impression que c'est une peinture plus que d'une photo, d'ailleurs. Hein.
Ça donne un peu le tournis. Je vous avoue, être au milieu de ces 28 000 lanceurs et d'être au milieu de ces événements, ça donne un peu le tournis. Et on va dire, on est submergé par l'événement et par l'émotion que véhicule l'événement.
Et pour votre travail, il ne faut pas perdre la tête, là. Hein.
Exactement.
Et ça ne va pas être facile, hein, parce que, comme vous dites, ça fait du bruit, je m'en doute. Et puis, il y a tellement les couleurs, les gens. Les divinités qui sont représentées. Alors ça, c'est le travail que vous avez fait en Bolivie.
Oui.
Mais alors là, plus traditionnellement pour notre Europe, vous avez été à la Semaine Sainte de Séville. Alors là, on la connaît, hein, c'est une des grandes traditions des processions.
Exactement. La chose qui s'est passée, c'est qu'en rentrant de Bolivie, ça m'est apparu, on va dire, logique de venir apporter un regard croisé avec, donc du coup, les processions qui se faisaient en Espagne. Déjà parce qu'il y avait une logique de colons colonisés, colonisateurs.
Et, oui.
Et après, deux manières de faire des parades votives assez différentes. Et donc, j'ai trouvé ça comme une évidence. Donc, à peine rentré de Bolivie, je partais à Séville pour aller faire la seconde session de photos qui me permettait donc d'articuler ce parallèle.
Et ce qui permet de faire cette exposition avec ces deux tenants, hein, à la fois le continent européen et les conquistadors, on en parlait, hein, c'est bien eux là. Et puis de l'autre côté, dans la cordillère des Andes, dans la Bolivie, juste à côté du Pérou, comme vous disiez, ça doit être vraiment fascinant de voir la différence. Alors la procession sainte, on les voit, ce sont ces personnes qui sont habillées avec des chapeaux pointus, tout en blanc, avec des croix. Et là, c'est assez rude. Hein, c'est un côté, je veux dire, dur de la religion qui est représentée à Séville, mais ça reste factice. Enfin, on revient aussi à ça, l'appropriation de la population, on va dire andalouse, de la fête autour de ces processions.
C'est vrai que les Andalous, ils sont très attachés à ces processions, ils les portent, même ils le disent, certains qui vont dans les processions ne sont pas forcément croyants, alors que pourtant, c'est vrai que le cadre, on va dire, de la parade est quand même très très imposant.
Oh oui, oui, et puis ils portent toujours, il y avait les porteurs hein, avec les reliques, enfin ça dépend des endroits.
Ils portent les vierges en fait.
Les vierges, voilà, ouais, c'est ça, et c'est vierges, très très lourd, et ça demande un travail de coordination des mouvements extraordinaire. Hein. Il faut vraiment marcher ensemble, et puis c'est très très lourd. Donc c'est aussi une fête populaire. Ce n'est pas que une fête religieuse.
Oui, tout à fait. C'est vraiment un contrepoint que j'ai voulu amener, déjà esthétique, et puis après, on va dire, dans le contenu lui-même. Aussi bien dans le traitement, après on en parlera, dans le traitement photographique, que dans le traitement de la parade votive elle-même et de la raison, la croyance et de sa représentation.
Alors écoutez, Christophe, alors Ciuta.
Oui.
Ah voilà, j'y arrive. Hein. Vous êtes à Montpellier, c'est pas pour rien, c'est parce que vous exposez. Alors vous avez exposé dans un lieu magique, on a eu la chance déjà de recevoir autour de cette table, c'est pas tout à fait vrai puisque je l'avais eu au téléphone en fait, une interview téléphonique, Henri-Michel Morin qui est le président de l'ARPAC, l'Association Régionale pour la Promotion de l'Art Contemporain, qui est un personnage vraiment, on peut dire, tellement passionné. Et passionné par le vivant, par les artistes vivants. Donc, il vous a invité, je suppose.
Et c'est un appel à concours. Il lance appel à concours chaque année. Donc, du coup, il y a une sélection qui est faite sur une base d'un jury de 10 personnes.
Membres de l'ARPAC, certainement.
Membres de l'ARPAC. Mmh. Et donc, du coup, différents artistes, différents corps de métiers. Et donc, du coup, j'ai été sélectionné au milieu de ces artistes pour présenter mon travail cette année.
Et c'est toujours extraordinaire parce que c'est très différent et très éclectique à ce qu'il présente. Mais c'est l'art moderne vivant.
Je trouve. Et il laisse une place prépondérante aussi à des nouvelles créations, à tout type de tendance. Moi,
la photo, comme la peinture, la sculpture. Enfin, allez voir la fondation du Pioche Pela. C'est donc l'ARPAC, A-R-P-A-C. Sur les réseaux sociaux ou sur Internet, vous trouverez les adresses, parce que je ne vais pas vous donner tout ça. Mais c'est, ou même sur le site de Divergence FM, il y aura un petit article. Et vous êtes là du 3 au 26 mai. Et le vernissage, ça sera donc le vendredi 3. Et nous diffusons votre interview le vendredi 3. Ça tombe bien.
Parfait.
Alors, à 10h30 du matin, ce sera l'interview. Puis après, vous voudrez écouter, il suffit d'aller sur le site de Divergence et on a les podcasts de nos interviews, de nos émissions. Alors, du 3 au 26 mai, un endroit magique hein, quand même, cette
un
fondation.
Exceptionnel.
C'est exceptionnel. Alors, c'est à Castelnau, je le dis pour les auditeurs, même s'ils iront sur le site pour voir plus en avant les adresses. C'est pas loin de Charles de Gaulle. Hein. Il suffit de marcher un petit peu et on y est. Si on prend le tram, on descend à Charles de Gaulle. Si on est en voiture, on prend un peu la rue de la Pompignane. Et puis, entre deux immeubles honneurs, vous voyez hein, une flèche ARPAC. Et vous montez. Et là, je vous laisserai, les auditeurs, découvrir le lieu et l'exposition de Christophe Ciuta, qui est du 3 au 26 mai à cet endroit magique de l'ARPAC. Merci d'être venu nous voir.
Merci Olivier.
Et puis peut-être une autre fois pour d'autres expositions, parce que vous êtes de la région, et puis vous avez des attaches montpelliéraines. Vous venez assez souvent à Montpellier.
Très souvent à Montpellier, dans la région du Pic-Saint-Loup.
Bah voilà, c'est une bien belle région. Il y a aussi quelques carnavals qui existent hein, dans cette région. Il y a le carnaval occitan, tout à fait particulier. On pense à Cournanterral, etc., avec les paillasses. Ça, c'est aussi extraordinaire.
Hein. C'est aussi extraordinaire. Voilà. Moi, je vais essayer de creuser le sujet.
Ah voilà. Bah, merci beaucoup. Et puis donc, rendez-vous dans la fondation du Pioche Pela à l'ARPAC à Castelnau pour voir cette exposition du 3 au 26 mai. Merci.